je pense vraiment que c'est fondamental de dire que l'intime est politique. Ce qui se passe dans les familles, ça concerne toute la société. Parce que les conséquences, parce que les adultes qu'on fabrique, c'est dans l'enfance que ça se fabrique.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix, contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Pour cet avant-dernier épisode, sur le vif, nous allons nous attaquer à un sujet qui fait mal. Un sujet qu'on aimerait bien ignorer. La maltraitance infantile. Une réalité des violences intrafamiliales insupportable, inconcevable, mais qui touche plus de 150 000 enfants chaque année. Victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles, la voix qui nous accompagne aujourd'hui nous fait un constat effroyable. Et nous assure également que le berceau des dominations peut être brisé tant qu'on ne le laisse pas sous silence.
Alors, donc, je m'appelle Laure Lapez-Fayol et je suis pas mal de choses en même temps, mais dans ce cadre-là, je suis psychanalyste et éducatrice de jeunes enfants et prof de yoga aussi parce que je peux aussi être amenée à travailler avec des enfants dans ce cadre-là et avec des personnes qui viennent en consultation. Et donc voilà, c'est dans ce cadre-là que je suis au contact des victimes.
Sur quel territoire exactement ?
Donc je suis à Beauvaines et j'interviens aussi dans le cadre de l'association Cultivons la confiance et dans le cadre du collectif Vif sur toute la région de la vallée de l'Eyrieux.
Et comment vous êtes arrivée à vous impliquer autour des questions de violence et qu'est-ce qui vous a amené à accompagner des personnes victimes ?
Je suis arrivée à accompagner des personnes victimes de violences ou subissant des violences ou ayant été victimes dans l'enfance de façon très graduelle. C'était pas écrit au départ. J'ai fait d'abord des études universitaires d'histoire. Et puis, j'ai moi-même eu des enfants, ce qui m'a basculé dans un univers assez fou de cette maternité. Et j'ai commencé à me former en accompagnement pour les futures mamans. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai suivi des tas de formations jusqu'à devenir éducatrice de l'enfance. Puis... psychanalyste, je réduis un peu, je fais court. Et je pense que j'ai réalisé dans un premier temps que toutes les femmes, parce que j'étais beaucoup en contact avec des femmes dans le cadre de mon travail d'accompagnement à la naissance, avaient été d'une façon ou d'une autre victimes de violences. Et j'ai mesuré en accompagnant ces femmes que moi aussi j'avais subi. Ça m'a permis de mettre des mots sur aussi moi mon vécu d'enfant, de femme, dans une histoire très 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 compliquée, très traumatique. Et finalement, tout ce parcours-là qui a pris énormément de temps, ça a été un parcours de résilience pour moi. Et aujourd'hui, dans la posture que j'ai professionnelle, je mesure la force finalement que c'est aussi d'être passé à travers ces étapes-là. Pour pouvoir accompagner. Et bien évidemment que c'est une cause, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et le fait de me professionnaliser dans ces accompagnements-là, ça fait vraiment sens pour moi. Et je suis investie depuis très longtemps dans cette lutte. et dans cet engagement féministe aussi, où les chiffres sont là. Et donc, je le savais. Et quand je suis arrivée en Ardèche, les premiers accompagnements que j'ai faits ont été au travers du biais de l'association Cultivons la Confiance. Donc, en fait, ça a été vraiment... Les premières personnes que j'ai accompagnées étaient des personnes qui subissaient des violences.
Selon le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes, en 2022, 24% d'un échantillon de 1000 Français de plus de 18 ans estimaient avoir été victimes de maltraitances graves au cours de leur enfance.
En 2019, ça fait déjà quelques années, selon la Fondation pour l'enfance, il y a 400 000 enfants touchés par des violences conjugales qui sont déclarés au sein de leur foyer. En 2021, il y a au moins 105 enfants qui ont perdu l'un de leurs parents, leur mère pour la plupart, et au moins 37% ont été témoins des faits. Il y a un enfant qui décède à peu près tous les 5 jours dans le cadre de violences intrafamiliales. Aujourd'hui, donc j'ai regardé les chiffres là ce matin avant de venir, et au 23 mai, on était à 22 enfants tués par des adultes.
En France.
En France. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que 95% des violences se passent au sein de la famille. C'est pas le grand méchant loup qui attend à la sortie de l'école, c'est pas quelqu'un qu'on connaît pas. Le danger, il est dans les familles.
Selon un rapport 2020 du Haut Conseil à l'égalité, 40 à 60% des enfants témoins de violences conjugales sont aussi victimes de violences physiques. Si le parent violent a aussi des addictions, le risque de violences sexuelles augmente.
Et quelle forme prennent ces violences ?
Alors, les formes de ces violences, elles sont très, très vastes. Le fait d'être exposé simplement à des violences intrafamiliales, donc des violences dans le couple, c'est une immense violence.
Des violences psychologiques, physiques, dans le couple.
Dans le couple. C'est vraiment ce climat de peur, de terreur permanente. Que l'enfant voit, il est pris dans un conflit de loyauté terrible. L'enfant, il vit le cycle de la violence. Il l'intègre in utero. Souvent, la violence, dans le couple, elle arrive, elle surgit au moment de la grossesse. C'est souvent là où ça décompense et où l'homme, en général, change d'attitude. Il y a une menace de séparation, il n'est plus le centre. Et les violences, elles naissent à ce moment-là. Et l'enfant, déjà in utero, on a montré, il intègre ce cycle de la violence. Donc, il sécrète déjà du cortisol et ça se calme après. Donc, il est vraiment pris et il est aussi sous emprise du parent violent. Donc, comme autre forme de violence sur les enfants, bien évidemment qu'il y a les violences psychologiques. Il y a des humiliations permanentes. Il y a l'humiliation, la violence contre la mère, qui est une violence contre l'enfant, et qui le met dans une posture, souvent, de responsabilisation. Notamment quand il y a une séparation, où l'enfant a une image de sa mère comme quelqu'un de faible. Alors, on peut changer les genres, mais enfin, le parent victime... L'enfant se construit avec l'image de ce parent comme faible, comme incompétent à le protéger lui, comme un peu idiot parfois. C'est tellement fort à la maison, c'est tellement présent, qu'il va lui se positionner comme protecteur, comme parent. Il va souvent devenir tyrannique avec le parent victime. Et on les voit aussi, ces enfants. C'est insupportable d'ailleurs pour les entourages et souvent on dit « non mais elle ne sait pas l'élever, elle se fait marcher dessus ». Et c'est très très compliqué, les questions de parentalité autour de ces sujets-là sont extrêmement sensibles. Ce qui pourrait être presque touchant, parce qu'il y a des enfants, c'est très très touchant la façon dont ils prennent soin de leur maman, dont ils se préoccupent, qui sont très matures, très responsabilisées. On peut se dire waouh, super.
Mais c'est pas normal.
Mais c'est pas normal. C'en est fini de l'enfance. Ces enfants ne sont plus des enfants. Ils ont plus le droit. C'est terminé pour eux. Et c'est un sacrifice immense. Ils ne goûteront plus jamais l'insouciance. Plus jamais. Et en plus, on va leur reprocher cette attitude.
Leur enfance est volée.
Leur enfance est volée, complètement.
Souvent, sous couvert d'éducation, l'enfant est vite oublié et négligé. On ne regarde pas ces violences, ou même si on les voit, on y met un voile. Et il y a d'autres formes de violences, comme les violences sexuelles, les cas incestueux, qui, je crois, touchent 3 à 4 enfants par classe.
Oui, alors, donc c'est ce qu'on dit, hein, les violences intrafamiliales sont le terreau des abus sexuels. C'est-à-dire que quand il y a un parent violent à la maison, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait de l'inceste. Hein, parce qu'il y a une question de pouvoir, de possession.
D'emprise.
D'emprise, de possession de la famille par l'agresseur. Et donc, dans le cadre des violences intrafamiliales, il y a 21,5% des enfants qui sont eux-mêmes maltraités physiquement, y compris les abus sexuels. Okay. Donc là, on est à 3 enfants par classe. Si on ajoute les violences psychologiques, qui sont beaucoup plus dures à estimer, et ça, c'est ce qu'on sait, hein, 3 enfants par classe, on arrive à 9-10 par classe. Donc c'est énorme. Et on parlait tout à l'heure du déni, de l'impossibilité de voir. Alors j'utilise souvent cette image qui n'est pas rigolote, qui est un peu trash. Il faut pouvoir se... Et ça, c'est le juge Édouard Durand, hein, qui était président de la CIVIS avant que ce soit complètement délité. Il disait, il faut... Le plus dur, le plus important, c'est de parvenir à se représenter la violence. Et c'est pouvoir imaginer un pénis dans un sexe de nourrisson. Et c'est des choses, c'est absolument insupportable. C'est insupportable. On ne peut pas. On peut pas imaginer ça, on préfère... Mais c'est quelque chose, c'est le cerveau qui peut pas, qui veut pas. Mais ça existe, c'est là.
Ça peut être à côté de chez nous.
Ça peut être à côté de chez nous, c'est à côté de chez nous. Quand on voit les chiffres, quand on dit 3 enfants par classe, 9 enfants par classe maltraités, ça veut dire qu'il y a autant de maltraitants. Dire les enfants, ils ont des parents. Il faut des agresseurs pour avoir des gens agressés.
Une enquête INSERM de 2021 indique que 13% des femmes et 5,5% des hommes ont subi des violences sexuelles au cours de leur enfance.
Aujourd'hui, on parle d'enfants exposés aux violences, même si le terme n'est pas hyper joli. C'est pour sortir de cette idée d'être juste témoin. Avant, on parlait d'enfants témoins de violence. Et même sans avoir assisté, hein, juste le fait de voir sa maman couverte de bleu, ou sa maman qui pleure, sa maman qui a peur, d'entendre des hurlements, c'est terrible. Et pour les enfants qui vivent dans ce climat-là, il faut bien comprendre que la violence, elle fait partie des murs. La violence, c'est un petit peu comme... j'ai vu un reportage il y a pas longtemps d'une pédopsychiatre qui explique... Il faut se figurer, vous êtes en camping dans la forêt et vous sortez de votre tente et vous tombez sur une maman ours avec ses bébés ours qui est prête de vous attaquer. Donc au niveau physiologique, vous avez une montée de cortisol, une montée de stress, enfin, c'est terrible. Ok, la maman ours passe son chemin. Vous pouvez souffler, vous n'avez pas été, vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas... bon. Il faut s'imaginer que pour l'enfant exposé aux violences conjugales, l'ours rentre tous les soirs à la maison. Et ça crée un état de stress permanent, avec toutes les conséquences associées au stress permanent. Et juste pour terminer là-dessus... Il y a cette omerta, cette impossibilité de voir, alors que ces enfants, ils nous montrent qu'ils vont pas bien. On le voit, on les connaît, ces enfants.
Terré dans cette pièce, terré dans cette pièce, je me cache. Je suis prise au piège, surtout, je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre, je ne suis pas libre, ce regard.
Le petit chaperon rouge, les trois petits cochons.
Et sur le qui-vive, toujours, et sur le qui-vive, toujours, ça me garde.
Depuis notre plus jeune âge, les histoires qu'on nous raconte nous apprennent à nous méfier du loup qui rôde dans les bois.
Papa, fallait pas, papa, venir trop près de moi. Maintenant, je sais plus très bien qui t'es. Sous cet œil tout, je le vois, loup, voyez le loup.
Pourtant, le loup le plus menaçant a toujours été celui qui réside entre les murs de nos maisons.
Je sais que le loup n'est plus dans la forêt.
Comment on le voit ? Comment on peut se douter qu'un enfant ne va pas bien ? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter ?
Alors, les signes qui doivent alerter et qui sont alertants, il y en a plein. Je vais en citer quelques-uns, mais ce qui est important, le plus important, c'est le changement. C'est d'un coup, on note, tiens, c'est pas comme, il y a quelque chose qui a changé. Parce que chaque élément pris séparément ne veut pas forcément dire, hein, il ne faut pas tomber non plus dans une paranoïa, enfin dans un truc à suspecter... tout le monde de vivre ces choses-là. Mais un enfant qui subit des violences ou qui est exposé aux violences, hein, c'est des enfants qui peuvent être ces enfants toujours fatigués, ces enfants avec les yeux cernés, qui sont toujours malades. Hein, la sécrétion de cortisol, hein, de cette hormone du stress, elle diminue la force du système immunitaire. Hein, et les enfants sont tout le temps malades. Ils peuvent être évitants. C'est des enfants, on les voit, ils disent trop rien. Ils sont, ils fuient un petit peu le contact avec l'adulte. C'est des enfants qu'on repère assez bien à l'école. Hein. On a tous eu dans notre classe un copain, une copine, ou pas copain ou pas copine, qui disait rien, qui était dans son coin et qui voulait pas trop se mélanger avec les autres. Ça peut être des enfants, au contraire, envahissants, qui sont agressifs avec les autres. Hein. La violence, elle s'apprend toujours quelque part. Hein. Elle n'est pas innée. On n'est pas avec ça. Des enfants nerveux, qui ont des problèmes de concentration, qui sont en échec scolaire, qui sont angoissés, qui mentent. Alors, bien évidemment, après, il y a des enfants qui ont des marques et qui montrent des signes physiques de maltraitance. Et puis, il y a tous les troubles du développement, tous les TDAH, enfin, tout ce qu'on entend maintenant, c'est hyper... on en parle de plus en plus.
Et ça a un impact sur sa vie d'adulte.
Bien évidemment. Donc, on est bien d'accord que tous les enfants qui présentent un de ces signes ne sont pas forcément... exposés aux violences, mais ça doit toujours nous interpeller, hein, tout le temps.
Et quand on a été victime, on risque aussi peut-être de devenir agresseur plus tard dans sa vie adulte. Comment ça nous impacte en ayant été victime et pas accompagné quand on était enfant ?
Voilà, donc c'est ça, hein, le risque de reproduction de la violence, il existe, mais il n'est pas, c'est pas une fatalité. Mais s'il n'y a pas eu de prise en charge, s'il n'y a pas d'accompagnement de mise en mots, M-O-T-S, de ces mots M-A-U-X, et de réintégrer cette histoire dans une biographie et de nommer les choses comme n'étant pas normales, parce que l'enfant, il continue d'aimer son parent. On voit des enfants placés en foyer qui s'échappent pour retourner chez leurs parents, qui reviennent. Il y a l'histoire d'un petit enfant comme ça qui partait plusieurs fois, quoi, à chaque fois on retourne. Il est revenu scalpé, mais il est retourné. Il n'a pas le choix que d'aimer. C'est sa survie qui est en jeu. Et donc, s'il y a pas cette prise en charge, s'il n'y a pas ces mots, mais j'ai envie de dire une prise en charge, ça peut être une prise en charge psychologique, ça peut être juste un adulte qui dit « ça va pas, c'est pas normal ce que tu vis hein, », ça peut être une étincelle, ça peut changer la vie d'un enfant. Mais s'il n'y a pas ça, l'enfant, il intègre que aimer ou être aimé, ça fait mal.
Sur le vif. Sur le vif.
Donc notre devoir, en tant que citoyen, citoyenne, c'est de réagir. Comment réagir quand l'enfant vient nous parler ou quand on a des doutes et des suspicions? Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Quelle place pour le témoin?
Alors, c'est la place du témoin, le devoir de signaler, c'est une obligation. C'est une obligation pour les enfants.
Oui, que l'on soit en contact avec les enfants, que l'on soit par exemple institutrice, instituteur, qu'on soit dans le monde de l'animation, mais aussi quand on n'est pas forcément relié à l'enfant.
Tout citoyen, même si c'est une histoire dont on a entendu parler, qu'on a un nom, un prénom, une adresse, on doit signaler. Maintenant, quand on travaille avec des enfants, là, c'est, j'ai envie de dire, encore plus important. Quand on est au contact, hein, les médecins, eux, ils ont l'obligation de faire en sorte que cessent les violences.
En 2021, le gouvernement français adopte la loi Billon, visant à protéger les jeunes mineurs de crimes sexuels. Un texte de loi qui établit un seuil d'âge de non-consentement à 15 ans et la création de la CIVISE, Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
Chaque citoyen, du moment où il y a une suspicion, où on se dit « ouf », là, je crois, là où l'enfant m'a parlé, j'entends des cris chez mes voisins régulièrement et il y a un petit enfant qui est là. On doit faire ce qu'on appelle une information préoccupante. Donc ça se fait auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes. Il y a un numéro de téléphone et c'est une obligation. Alors, on a toujours peur. Quand on fait ça, on se dit « oui, mais alors après, les conséquences, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas, et puis après, ils vont enlever l'enfant de la famille, et puis si ce n'est pas vrai, ils vont savoir que c'est moi. » Alors, on peut faire une information préoccupante de façon anonyme. On n'est pas du tout obligé c'est pas nominatif. En tant que citoyen. Après, au niveau des professions de l'enfance, alors souvent ça se fait au nom de l'institution, les signalements, et c'est souvent très compliqué. Parce qu'il y a la peur de se mettre à dos les familles, de se tromper, de... Mais dans les institutions de la petite enfance, en tout cas, c'est la responsabilité des personnes qui est engagée, donc de chaque professionnel. C'est pas là, on va pas pouvoir dire « Ah, mais la directrice, elle a rien fait ». Non, on peut pas se cacher derrière ça.
Après 27 000 témoignages, recueilli en 2 ans par la CIVISE, un nouveau rapport, établi en 2023, souligne l'importance d'une prise de conscience collective dans la société. Seulement 15% des enfants se confient à des professionnels et près de 6 professionnels sur 10 ne protègent pas l'enfant à la suite de la révélation des violences.
les violences dans les campagnes, dans le territoire ardéchois, donc qui est un territoire où la densité de population est très faible, on sait à quel point, dans les endroits reculés, il y a une perpétuation de cet ordre des choses où on reproduit de génération en génération les violences qu'on a soi-même subies la plupart du temps. Et il y a un vrai... cette impossibilité à voir. Et ça, c'est dans les campagnes comme ailleurs. Et il y a effectivement cette difficulté d'avoir accès à certains réseaux. Mais pour aller déjà vers les réseaux, il faut prendre conscience des choses qui ne vont pas. Et au niveau sociétal, et ça c'est de partout, mais peut-être encore plus dans les régions rurales, j'ai envie de dire, on ne peut pas voir, il y a vraiment cette culture du silence qu'on a intégrée en nous. C'est dans la famille, c'est dans l'intime.
Donc on ne touche pas à la sphère familiale.
Voilà, on ne touche pas à la sphère familiale. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. On n'a pas à se mêler des histoires de chacun. Ce qui est important de dire, c'est que, bien évidemment, on sait qu'il ne faut pas se voiler la face. En France, et ça ne va peut-être pas s'arranger, l'aide sociale à l'enfance est en grande difficulté. C'est compliqué, c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Il y a des peurs. Souvent, les parents qui sont confrontés à l'aide sociale à l'enfance se sentent intrusés, se sentent jugés, se sentent en danger, se sentent menacés. Voilà, les mesures qui sont prises ne sont pas forcément ce qu'on attendrait, mais en tant que citoyen, en tant que professionnel travaillant avec des enfants, nous ne sommes ni juges, ni policier. En fait, après, chacun fait le travail qu'il doit faire. Peut-être que ce n'est pas comme nous, on l'aurait fait. Mais en fait, après, ça ne nous appartient plus. Ce n'est pas... Et c'est comme de se dire, oui, mais peut-être que ce n'est pas de la violence, mais qui suis-je pour juger ça? En fait, ça, ce n'est pas le travail du citoyen, ce n'est pas le travail du travailleur dans l'enfance, c'est le travail de la justice. Quand on fait une information préoccupante, il y a une enquête sociale. L'enquête sociale, c'est des éducateurs spécialisés qui ont des curseurs. Hein, ça, c'est permis, ça, c'est pas permis. Là, qui vont enquêter avec plein de données et qui, eux, vont dire, bon, bah, là, ce serait bien qu'il y ait un placement ou là, il peut y avoir une aide au domicile. Enfin, c'est eux qui jaugent et qui ont les tenants et les aboutissants, mais chacun a sa place dans le maillon. C'est pas à nous de se dire « Oui, mais je sais pas si c'est vraiment de la violence. » Ils verront. Dans le doute, il faut agir. Voilà. Et il faut vraiment savoir qu'il n'y a aucun enfant, a posteriori, quand ils deviennent adultes, qui dit qu'il regrette qu'on l'ait écouté et qu'il y ait eu quelque chose. Même si ce n'était pas à la hauteur. Ils sont reconnus, ils sont vus. C'est le début d'une possible reconstruction.
Et dans vos ateliers, alors comment ça s'articule? Est-ce qu'il y a autant de place pour la parole, la libération de la parole? Est-ce que vous travaillez également la place du corps, les mouvements?
Dans les ateliers qu'on a proposés dans le cadre de Cultivons, qu'on a appelé des ateliers père et danse, il y a tout un travail vraiment fait autour de cercles de parole, hein, où chacun, chacune est entendue, n'est pas coupé dans sa parole, il n'y a pas d'interprétation, il y a on fait une charte ensemble d'écoute, de bienveillance, de non-jugement, parce que chacune n'est pas au même endroit. Donc chacune vient dire ce qu'elle traverse, comment elle se sent, et puis bien évidemment qu'on passe par le corps. Hein, il y a vraiment un travail de... Voilà, on fait des respirations... On se met en mouvement et puis on amène par aussi des outils d'éducation populaire, de choses comme ça, les femmes à se questionner ensemble sur certains sujets et de pouvoir ensemble se projeter dans leurs besoins, dans ce qu'elles auraient besoin de trouver et d'élaborer ensemble aussi des possibles. parler de ce qu'on a traversé pour pouvoir comprendre l'être qu'on est aujourd'hui, ça va pas guérir les maladies, mais ça permet de vivre les choses en conscience, de sortir du fait de subir, en fait, ce qui nous arrive, de pas comprendre et d'être comme un panthère en se sentant pas normal, en se sentant faible, sans volonté. Il y a des gens qui peuvent plus travailler, qui peuvent plus. Donc l'idée de venir voir quelqu'un, de se dire « Ok, je vais faire ce pas-là », ça permet de reprendre le pouvoir, en fait.
Regardant mes plaies, j'avoue, regardant mes plaies, j'avoue, c'est plus grave. Qu'est-ce que je croyais, c'est fou. Qu'est-ce que je croyais, c'est fou, ça s'étale.
Première chose qu'on pose, que ce soit dans les ateliers de père aidance, les autres ateliers proposés par l'association, la première chose qui est posée, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que il y a des femmes, hein, des fois, qui sont là, et même dans le tour de parole, elles disent même pas leur prénom, ni leur âge, ni ce qu'elles font, ni juste elles sont là, et on a le droit, et on a le droit de partir aussi. On a le droit, au bout de 5 minutes, de se dire, en fait, je pas, c'est OK. C'est vraiment...
Reprendre son libre arbitre.
Reprendre son libre arbitre, son autonomie, son pouvoir d'agir pour soi, en respect vraiment avec ce qu'on ressent. Donc, il n'y a pas de pression, en fait.
Sur le vif.
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 Sur le vif. Un podcast qui invite à élever la voix, nos voix contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche. Un podcast de Radio Desboutières avec le soutien et la participation du collectif de lutte contre les violences intrafamiliales en Centre-Ardèche, collectif Viferieux. Un grand merci à Madeleine Villeminot, Elsa Barato et Gaëlle Romeuf pour la création sonore de ce podcast, ainsi qu'à toutes les personnes chez Laroise qui ont prêté leur voix. Retrouvez et réécoutez tous les épisodes sur le vif, les voix de la résilience, en podcast sur rdbfm.com.